Bonjour à toute la grande famille Nouvelle Vie et à vous tous qui nous regardez partout en ligne. Je suis vraiment privilégié d'apporter le message aujourd'hui en cette journée spéciale. Et on veut dire à tous les papas, bonne fête des pères. Peu importe où vous êtes sur la planète en ce moment, on veut dire qu'on est fiers de vous et qu'on vous aime. Et c'est un privilège pour moi d'apporter le message aujourd'hui dans cette fête des pères parce que l'une de mes plus grandes joies, c'est d'être moi-même papa de deux garçons. Je vous présente ma famille, mon épouse Sophie, et mes deux garçons, Lenny qui a 5 ans et Jackson qui a 1 an. Et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez combien j'aime ma famille et combien j'en suis fier. Comme un peu ces parents, dès que vous parlez de leur enfant, ils vous montrent « As-tu vu les dernières photos de mes enfants ?» Je suis un peu comme ça, je suis très gaga et j'en suis fier. C'est pour ça que je suis vraiment heureux d'apporter le message de la fête des pères. Et puis je remercie Pasteur Claude pour l'opportunité qu'il me donne de vous apporter le message. Je veux dire aussi aujourd'hui, je veux prendre l'occasion de souhaiter une bonne fête des pères à mon papa. Je sais qu'il va regarder ce message en ligne. Et même si on n'est pas sous le même continent, ça fait 12 ans maintenant qu'on a quitté la France pour venir au Québec. Je veux dire, papa, merci. Je veux dire, je t'aime. Je veux dire que si j'essaie de faire tout en mon possible pour être un bon père pour ma famille, c'est parce que j'ai eu un bon modèle en te regardant. Merci pour qui tu es. Merci d'être encore pour moi un modèle, même si on ne se voit pas souvent. Je te regarde de loin et je pense à toi chaque jour. C'est aussi un petit message pour lui parce que ça fait 3 semaines que j'ai acheté sa carte de fête des pères, mais j'ai oublié de la poster cette semaine. Donc, elle va sans doute arriver avec un peu de retard, donc au moins, il y aura eu une bonne fête aujourd'hui. Les papas sont précieux aux yeux de Dieu. Réellement, si vous regardez la Bible, si vous regardez la parole, du début jusqu'à la fin, Dieu honore les pères. Bien sûr, on a honoré les mères il y a quelques mois. Mon épouse a prêché le message. Les pères et les mères ont une importance capitale. Mais aujourd'hui, on fête les pères. Et c'est dans une société peut-être qu'on perd de vue l'importance qu'ont les pères dans les familles. Mais je veux aujourd'hui valider, je veux aujourd'hui vous dire de la part de Dieu que vous êtes précieux. Les pères sont précieux aux yeux de Dieu. Ils ont une influence incroyable, non seulement dans leur famille, mais dans la société, dans l'Église, même universelle, mondiale. Ils ne se rendent pas souvent compte de leur influence. Parfois même, ils la sous-estiment. Ils ne voient pas leur impact, mais je peux vous le dire et vous l'assurer, vous faites une différence là où vous êtes. Et merci pour ce que vous faites. Et avec toute Nouvelle Vie, on veut vous applaudir. Là où vous êtes, tout le monde, applaudissez les pères. Donnez-leur un high five si vous êtes à côté de votre papa. Textez, appelez-les aujourd'hui, célébrez-les parce qu'ils font une différence dans nos vies. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais je sais aujourd'hui qu'alors qu'on célèbre la fête des pères, pour certains, c'est difficile. Pour plusieurs, c'est difficile parce qu'à chaque fois qu'on parle d'une relation avec un père, ils disent « moi, j'en ai pas eu une bonne. J'ai pas eu de bonne relation avec mon père. » Ou « je ne l'ai même pas jamais connu. Il m'a abandonné et j'ai vécu avec un vide toute ma vie. » Et vous savez, malheureusement, c'est une réalité qui est de plus en plus présente. J'ai lu une étude cette semaine, une étude qui dit qu'en Amérique, de 1960 jusqu'à 2016, le pourcentage d'enfants grandissant sans père a presque triplé, passant de 8 à 23%. Et ça, c'est un fléau incroyable. Et c'est pour ça que je lève mon chapeau et je dis à tous ceux qui ont manqué de l'amour d'un père, qui ont décidé de ne pas reproduire ce cycle et d'être là, présents pour leur famille, des pères et des mères présents, aimants pour leur famille. Et je veux vous dire qu'on vous aime et qu'on vous apprécie et que Dieu vous regarde et qu'il y a une faveur pour vous. Mais la raison numéro un pourquoi je suis ici ce matin et pourquoi c'est mon privilège d'apporter le message, c'est parce que je veux vous annoncer l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, notre Père à tous. Et il veut être en relation avec ses enfants. Il veut être en relation avec sa création. Et je suis là juste pour vous dire combien Dieu vous aime. Combien Dieu veut être proche de vous. Combien Dieu veut être investi dans votre vie. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « L'amour d'un Père change tout ». Quand mon premier fils, Lenny, est né il y a 5 ans, bientôt 6, comme tout, un peu tous les nouveaux papas, j'ai acheté des livres. Non, je ne les ai pas tous lus. J'allais voir les blogs. J'essayais de... Comme quoi, ce n'est pas juste les femmes qui lisent les blogs. J'allais voir un peu toutes les ressources pour essayer d'être un bon papa. Quels sont les 10 steps qu'il faut suivre pour être un bon papa? Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire pour être un mauvais papa? Mais vous savez, le meilleur ouvrage que je vous conseillerais, que je conseillerais à tous les pères et toutes les mères, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Le meilleur ouvrage avec les meilleurs conseils de comment être un père selon le cœur de Dieu, un père qui aime, qui protège, qui valide, c'est la parole de Dieu. Et on va lire un texte justement dans l'évangile de Luc, qui se trouve dans le Nouveau Testament, chapitre 15, versets 11 à 32. Et avant de le lire, j'aimerais juste remettre le contexte un peu en place. C'est Jésus. Jésus est dans son ministère ici sur terre, et alors qu'il est en train d'annoncer la bonne nouvelle en Israël, tout le monde vient l'écouter. Jésus, à chaque fois que Jésus parlait, il y avait des foules qui se rassemblaient autour de lui. Et dans les foules veut dire toutes sortes de personnes, toutes sortes de bagages, toutes sortes de vies, toutes sortes de statuts sociaux, toutes sortes de personnes avec des vies complètement dévergondées jusqu'aux plus religieux qui faisaient attention à tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils disaient. Et alors que Jésus parlait à tout le monde, Jésus était inclusif. Jésus parlait à tout le monde, Jésus aimait tout le monde. Mais là, il y a les religieux à l'époque qui commencent à le critiquer et puis ils se demandent, mais pourquoi Jésus, qui est censé être un modèle, un maître, celui qui apporte la bonne nouvelle, pourquoi celui qui est là, qui est censé être pur, saint, s'intéresse aux gens de mauvaise vie? Pourquoi il semble s'intéresser à eux? Et alors que Jésus, sa mission était de démontrer l'amour du Père pour l'humanité. Jésus était l'incarnation de l'amour de Dieu. Et il allait vivre une vie parfaite, aller jusqu'à la croix pour souffrir et mourir pour que l'humanité soit réconciliée avec Dieu. Alors Jésus était la preuve parfaite de l'amour de Dieu. Mais les gens le critiquaient en disant, mais pourquoi il s'intéresse à ceux qu'on met de côté, aux impurs, à ceux qui n'ont pas le droit qu'on s'intéresse à eux? Et Jésus va leur montrer l'amour de Dieu par une parabole. Il va utiliser une image pour démontrer l'amour du Père pour l'humanité. Mais Jésus ne va pas prendre une image parfaite d'une famille. Et en fait, Jésus va prendre l'image, une parabole, il va prendre l'image d'une famille. Mais pas n'importe quelle famille. Pas la famille qu'on voit dans les magazines IKEA, où tous les parents avec les jeunes enfants sont assis dans le fauteuil, en train de manger, en train de rire. Si vous mettez ma famille dans mon salon, avec mes enfants, en train de rire, avec de la nourriture, il n'y a plus rien qui est propre. Là, on voit des images, parfois dans les magazines, « Oh, tout est parfait, tout est beau. » Non. Jésus va prendre une vraie image. Une image d'une famille qui vit une période difficile pendant des années. Et en fait, à chaque fois que je lis cette parabole, on l'appelle la parabole du fils prodigue, je me dis que c'est tellement un miroir pour nos familles à nous. Jésus pouvait prendre n'importe quelle image, mais il a choisi de prendre une famille imparfaite, parce que nos familles sont imparfaites. Et même si on fait notre meilleur pour être des familles qui ont l'air de fonctionner de la meilleure manière, nous avons nos limites, nous avons nos imperfections. Et on va lire ce texte qui se trouve dans Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Si vous avez votre Bible, prenez-la à la maison, surlignez, notez, faites vivre votre Bible. Et sinon, si vous ne l'avez pas, on va le lire ensemble ici. Jésus leur dit, donc Jésus parle à la foule et aux pharisiens parce qu'il sait que les pharisiens sont en train de le critiquer. Jésus leur dit, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service de l'un des habitants du pays, qu'il envoya dans les champs pour garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit alors à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau des vêtements et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. » Désolé pour les véganes. « Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, mais il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela l'un de ses serviteurs et lui demanda, « Qu'est-ce qui se passe ?» Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. » Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé les biens avec les prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Est-ce que je peux entendre un amen? Une histoire qu'on connaît bien, mais qui est tellement, tellement puissante. L'amour d'un père change tout. Et pour nous, il y a des principes incroyables dans comment l'interaction entre ce père et ses fils fonctionne. Et on va les regarder ensemble. J'ai 5 points pour vous. Le premier, c'est qu'un père doit être présent. Le verset 20 nous dit, « Alors qu'il était encore loin, son père le vit. » Alors qu'il était encore loin, son père le vit. Ça voulait dire que son père le cherchait. Son père était sans doute tous les matins en train de regarder à sa porte en disant « Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il revient ?» Son fils était parti depuis des années, mais son père s'attendait à être proche de lui. Il l'attendait, il le cherchait. Il voulait qu'une seule chose, être dans sa présence. Il voulait être réuni avec son fils. Le plus grand désir de ce père était d'être présent dans sa vie. Et le plus grand désir de son père était que son fils soit présent dans la sienne. Et même quand c'est difficile, ce père cherchait à être présent dans sa vie, même si son fils était parti loin. Est-ce que pour nous aujourd'hui, en tant que papa, vivant dans une société post-moderne, hyper active, avec les horaires de travail qui s'allongent, avec le temps de travail qu'on passe de plus en plus et moins de temps à la maison, est-ce qu'on cherche par tous les moyens possibles à être présent dans la vie de nos enfants? Est-ce qu'on fait tout ce qui est possible pour être le plus présent avec nos familles? Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film « À la recherche du bonheur » avec Will Smith et son fils. C'est une histoire vraie, l'histoire de Chris Garner avec son fils de 5 ans, Christopher. Et ce père se retrouve monoparental à essayer de jongler entre garder son fils et puis avoir une bonne relation avec son fils et de trouver du travail parce qu'il était à la rue. Et ce film, si vous l'avez vu, vous êtes comme moi, vous avez pleuré, dites-le, avouez-le, ça fait du bien. Non, ce film est tellement beau parce qu'il montre l'amour d'un père qui est tiraillé entre « il faut que je gagne ma vie, mais il faut que je passe du temps de qualité avec mon enfant. Il faut qu'il ne voit pas la pression que j'ai sur mes épaules. Il faut que notre maison soit un oasis. » Et même si c'est difficile, en tant que père, en ce moment, dans une société qui nous met une pression incroyable, Dieu est en train de nous dire, il faut que tu sois présent dans la vie de tes enfants. Si Dieu te demandait aujourd'hui, si tu devais choisir entre une meilleure carrière ou une meilleure relation avec ta famille, que choisirais-tu? Et bien sûr, tout le monde va dire, mais une bonne relation avec ma famille, mais est-ce que tes actions démontrent ça? Est-ce que tu cherches par tous les moyens à être présent dans la vie de tes enfants? Vous savez, dans les 4 derniers mois, avec le confinement qui a pris place partout dans la planète, je lis des articles qui disent combien les parents se disent, avec tous les défis que le confinement a amené, le télétravail, les enfants étaient en train de sauter partout pendant que le père était en conférence. On l'a tous vécu, celui-là. Mais les gens disent, c'est incroyable parce qu'on a pris du temps de qualité qu'on n'aurait peut-être jamais pris avant. Il y a quelque chose de beau qui en est ressorti, que les familles se sont rassemblées, se sont réunies, ont passé plus de temps avec leurs enfants. Et surtout, les papas qui d'habitude partaient peut-être plus tôt le matin, revenaient plus tard le soir, là ils étaient à la maison. Donc il y a quelque chose qu'on doit chérir, même si cette période a été vraiment instable et douloureuse à beaucoup d'égards, il faut qu'on ressorte de là avec quelque chose en disant, pour nos familles, il faut qu'on prenne du temps. Et nous, en tant que pères, nous devons montrer l'exemple de dire « ma famille est ma priorité, il faut que je passe du temps avec ma famille ». Mais le texte nous montre qu'on ne doit pas juste vouloir être présent dans la vie de nos enfants. Le deuxième point, c'est qu'un père doit démontrer son amour tangiblement. Voici le verset dit « le père fut rempli de compassion à la vue de son fils, le père fut rempli de compassion ». La compassion, c'est le terme en grec, splatizoma, et c'est un amour tellement fort. On imagine que les larmes lui sont venues aux yeux quand il a vu son fils. Et là, qu'est-ce qu'il a fait, son père? Le texte nous dit, il courut, il était tellement impatient de le voir. Ensuite, il va se jeter à son cou, il cherche à être le plus proche de lui. Et le texte nous dit, il l'embrassa, une tendre affection. Il y a une démonstration d'amour tellement fort. Ce père n'était pas gêné de démontrer son amour à ses enfants. Est-ce que vous et moi, parfois, dans notre bienséance, est-ce qu'on a peur d'être trop démonstratif dans notre amour? Vous savez, le théologien Alfred Cohen dit que dans la société juive d'alors, la dignité d'un homme de l'âge du père lui interdisait de courir. Le fait qu'il ait fait passer ses sentiments au-dessus de sa dignité parlait aux auditeurs de ce temps-là de l'intensité de son amour. Ce père-là n'avait pas peur du ridicule quand il s'agissait de démontrer son amour à sa famille. Est-ce que vous et moi, on peut regarder ce texte et la vérité de la parole qui dit « Il faut que tu démontres de l'amour. Il ne faut pas juste que tes enfants sachent que tu les aimes. Il faut que tu leur démontres, il faut que tu leur dises, il faut que tu leur prouves qu'ils sont importants pour toi. » Parce que c'est vrai. Vous savez, moi, je travaille fort à devenir démonstratif. Ce n'est pas dans ma nature. Sur un stage, j'ai l'air d'être hyper libre, oui, mais dans la vie, il y a une différence. Des fois, mes émotions d'être démonstratif, comme beaucoup d'hommes, dites amen, j'ai du mal à démontrer mon amour. Il faut que je fasse vraiment tout un effort pour. Mais je crois réellement que Dieu m'aide à pouvoir démontrer mon amour. Parce que combien de fois j'ai regretté d'être gêné dans mes émotions, de démontrer mon affection. Des fois, j'étais tellement gêné de dire quelque chose, de féliciter, d'encourager, de dire combien j'aimais mes enfants, ma femme, peut-être les gens autour de moi. Et puis, c'est un blâme que je prends, mais je me dis, Seigneur, donne-moi de ne pas être gêné, comme ce père-là. Il n'a pas eu peur du ridicule. Il n'a pas eu peur de qu'est-ce que la culture va dire. Il a dit, mon fils est là et je veux être tellement proche de lui. Je veux lui démontrer mon amour, même si c'est des temps difficiles qu'on vit. La troisième chose que ce père nous apprend, et je le rappelle, c'est Jésus qui parle à un auditoire et qui veut démontrer que le père de cette histoire est Dieu et nous sommes ses enfants. Un père doit pardonner. Jésus, le verset 21, Jésus leur dit, le fils lui dit, pardon, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Donc son fils vient, le fils prodigue revient à la maison. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre toi et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite les plus beaux vêtements, mettez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. » C'était incroyable. Là, on peut dire, OK, c'est quoi le rapport entre, dans cette culture-là, d'apporter le plus beau vêtement, de mettre un anneau au doigt et des sandales aux pieds, c'était un signe de dignité. J'enlève, puis sans doute, on voit la vie de débauche que ce fils-là a eue. Il voulait manger, et puis même ce que les animaux mangeaient, il n'arrivait pas à les manger. Donc ça veut dire qu'il était vraiment dans un état difficile. Il devait peut-être arriver à la maison tout sale, peut-être avec des vêtements, peut-être même plus sans vêtements. Et son père lui dit, « Oh, ça, c'est pas grave. Maintenant, amenez le plus beau des vêtements. Amenez-lui l'anneau qui représentait l'autorité, une place dans la famille. » Et des sandales aux pieds. Il est en train de réintégrer son fils à la famille. Il est en train de lui donner une validation. Tu fais partie des nôtres. Il enlève sa honte. Il ne le condamne pas. Son père, alors que son fils revient repentant en disant, voici, je ne suis même plus digne d'être appelé ton fils. Le père lui dit, non seulement tu es mon fils, mais on va célébrer ensemble. Prenez l'anneau, prenez les vêtements, prenez les sandales. Mon fils revient et il est vivant, on va faire la fête. Ce père-là n'était pas rancunier. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes parfois comme moi? À être rancunier, à dire « mais je pardonne, mais je n'oublie pas ». Ce père-là n'était pas dans cette distinction-là. J'ai reçu une image d'un père, j'ai vu cette image d'un papa dans le confinement, alors que sa fille lui demande « papa, as-tu une feuille pour que je dessine ?» Son papa, sans doute en télétravail, dit « non, désolé ma chérie, va prendre plutôt l'ordinateur pour… » Et puis voici le résultat que ça a donné. Si tu dis à ta fille « pour dessiner, va prendre l'ordinateur », elle comprend ça. Je ne sais pas si vous voyez le dessin tout gribouillé là, mais… Je ne sais pas si ce père-là était rancunier, mais au plus on est proche des gens, au plus ils vont nous blesser, au plus on va les blesser, au plus il va falloir qu'on les pardonne et qu'on demande pardon. Mais ce père-là, le père que nous devons prendre pour modèle, il n'est pas rancunier, il ne lui rappelle pas sa faute. En fait, le père le rassure. Tu me dis que tu n'es plus digne d'être appelé mon fils, que tu veux être le serviteur? Non, non, tu vas avoir une place d'honneur à ma table ce soir. Et quand on dit qu'il tuait le veau, c'était l'animal qu'il gardait pour les fêtes extraordinaires. Il y avait quelque chose que c'était le meilleur plat. C'est comme si que vous rentrez à la maison après plusieurs mois d'absence et que là, votre père vous dit, OK, caviar pour tout le monde, champagne, avec modération. Mais il y a quelque chose, c'est une fête qui vient prendre place parce que mon fils était perdu et je l'ai retrouvé. Il y a quelque chose de tellement, un amour qui déborde. Mais son père enlève la faute, il la couvre. Et il dit maintenant, tu reprends ta place de fils. Quatrième chose qu'on voit de ce père, c'est qu'un père doit célébrer. Alors qu'on regarde, un père doit être présent, il doit démontrer son amour, un père doit pardonner, mais aussi un père doit célébrer. C'est fou parce que le texte nous dit, verset 23, le père dit « Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Waouh ! Depuis quand tu n'as pas fait la fête avec tes enfants ? Depuis quand tu n'as pas célébré ? Depuis quand tu t'es pas décoincé pour dire, hey, ce soir, on va mettre la musique, on va danser parce que notre famille, on va la célébrer, on veut célébrer chaque moment. Ah oui, mais il n'y a pas, Pasteur Ben, il n'y a rien pour célébrer. Il n'y a pas de raison pour célébrer. Tu as toutes les raisons pour célébrer. Tu as toutes les raisons pour danser. Vous savez que dans la Bible, il y a plus de versets sur la danse que sur la prière parce que la danse fait partie de la réjouissance, de la célébration. Et quand tu célèbres devant tes enfants, tu es en train de leur montrer que je vis la vie et je suis heureux. Je veux le démontrer. Je veux que ça se voit. Je veux que tout le monde sache que je suis heureux. Est-ce que c'est une vie parfaite? Est-ce que c'est une famille parfaite? Est-ce que c'est les conditions idéales? Non. Mais j'ai toutes les raisons d'être heureux. Parce que si mes enfants sont là, je dois célébrer. Est-ce que tu célèbres? Est-ce que tes enfants te voient célébrer? Est-ce que tu célèbres tes enfants quand ils font quelque chose d'incroyable? On vient de fêter la graduation des secondaires 5 à l'église vendredi. Et même si on ne pouvait pas être réunis tous ensemble, on a célébré parce que c'est le passage du secondaire vers le cégep, vers la vie d'adulte. Il y a une passation, il faut qu'on célèbre. Est-ce que tu célèbres ta famille? Est-ce que tu es fier? Est-ce que tu es démonstratif? Est-ce qu'on voit que tu es heureux? Est-ce que tu loues à l'église le dimanche avec tes mains en l'air en disant « Seigneur, merci ». Est-ce que tes enfants te voient être heureux dans ta vie? Peut-être tu vas dire « Ouais, mais moi, c'est à l'intérieur ». Si c'est à l'intérieur, il faut que ton cœur parle à ton visage et que ton sourire se voit. Il faut que tu célèbres. Ce père-là, dans sa culture, il devait avoir vraiment une prestance. Il devait avoir une autorité. Il devait avoir vraiment quelque chose de « Voici la bienséance ». Non, il a tout oublié ça. Il a dit « On célèbre ce soir ». Et la cinquième chose que j'avais jamais vue dans ce texte, et c'est mon cinquième point, c'est que alors que ce père doit être présent, il doit démontrer son amour, il doit pardonner, il doit célébrer, un père doit recommencer. Je ne l'avais jamais vu. Pourtant, je connais ce texte-là, je l'ai lu pendant des années, mais en l'étudiant cette semaine, j'étais tellement frappé. Parce que ce père se donne tellement de mal à démontrer son amour et sa joie alors que son fils revient à sa maison. Le verset 28 nous dit que le fils est né, l'autre fils. Se mit en colère, jaloux de son frère. Et il ne voulait pas entrer faire la fête avec la famille. Mais c'est fou parce que le texte nous dit, son père sortit le supplier d'entrer. Son père vient de faire, je ne sais pas combien d'heures de « Oh, je suis tellement heureux, amenez-le, il a changé, il a donné des cadeaux, il a célébré, il a pleuré, il a tout fait. » Et quand son autre fils revient, son père fait la même chose. Il sort de la maison. Il se déplace vers lui. Il fait le premier pas. Et là, il le supplie d'entrer. Je veux encourager quelqu'un aujourd'hui. Peut-être que tu es fatigué de toujours essayer de ramener la paix chez toi, dans ta famille. Et puis tu te dis, oh, à combien de fois j'ai essayé, combien de fois ça n'a pas fonctionné. Recommence, ne abandonne pas. J'ai déjà trop de fois essayé, ça ne fonctionne pas. Encore, continue. Cherche la paix entre tes enfants. Cherche la paix avec tes enfants. Fais tout ce qui est dans ton pouvoir pour pouvoir avoir la paix et la réconciliation. Ce père-là nous montre qu'il n'a pas dit « Ah, mais je viens de passer tellement de temps, je suis fatigué avec l'un, je ne veux pas commencer avec l'autre. » Non, il a dit « L'un comme l'autre. » Il a même validé, il a dit « Tout ce qui est ici est à toi. » Il faut célébrer, il faut que tu célèbres avec nous. Son père a plaidé, c'était une journée remplie pour lui. Mais il y avait tellement d'émotions, il y avait tellement de joie pour l'un qu'il voulait donner la même joie pour l'autre. Il l'a sorti de sa maison et il a supplié son fils d'entrer. Dieu te donnera la force, la patience et la persévérance. Si tu vis une épreuve en ce moment, si tu dis avec mes enfants, c'est difficile et puis je suis fatigué d'essayer de recommencer et puis d'essayer... Dieu va te donner la force aujourd'hui par son Saint-Esprit. Dieu va te remplir d'une force, d'une persévérance pour dire « Je continuerai, j'irai vers eux, je ferai le premier pas ». Est-ce que ce n'est pas facile? Oui, ce n'est pas facile. C'est difficile de faire le premier pas, d'aller voir quelqu'un qui est en colère, qui nous a fait du tort, qui a mal parlé. Mais le rôle du père, c'est de recommencer encore. Parce que l'amour d'un père change tout. Et peut-être tu dis « Mais si je me compare à ce père-là, la barre est tellement haute, le standard est tellement élevé, j'y arriverai jamais ». Comment je pourrais y arriver? Puis, c'était ma question quand je lisais ce texte-là, je disais, Seigneur, tu prends l'image d'un père qui est quasiment parfait, parce qu'en fait, tu prends l'image de notre Père, Dieu. Mais comment je pourrais être, moi, un père à cette image? Puis le Saint-Esprit m'a donné une parole, puis si je veux être un bon père, il faut d'abord que je sois un bon fils. Et voici la parole, c'est fort parce que si je comprends que je suis l'enfant de Dieu, en fait, si je comprends que je suis l'enfant du prodigue, je suis le fils qui est sorti et qui doit revenir vers mon père, À chaque fois que je suis ce fils repentant qui vient dans les bras de mon Père, être rempli de sa compassion, son pardon, être lavé, purifié, honoré. À chaque fois que je suis ce fils qui revient vers mon Père, je peux, moi, devenir un Père à l'image de Dieu. Je le dirais comme ça. Je ne pourrais pas être un Père à l'image de Dieu si je ne viens pas d'abord à lui comme un fils repentant. Je le relis. Je ne pourrais pas être un Père à l'image de Dieu si je ne viens pas d'abord à lui comme un fils repentant. Si tu veux être un bon Père, il va falloir que tu sois un bon fils. Le fils, l'enfant de Dieu qui revient vers son Père. Ce texte me bouleverse parce qu'à chaque fois que je regarde ça, je me dis, Seigneur, je veux être comme ce Père, mais en fait, je suis comme le Fils. J'ai besoin de revenir dans tes bras. J'ai besoin de courir, que tu m'enlaces, que tu m'enveloppes de ton amour. J'ai besoin de voir mes fautes être effacées. J'ai besoin d'être invité à ta table. J'ai besoin d'oublier le passé, de recommencer à vivre, à rêver. Et c'est exactement ce que Dieu veut pour toi aujourd'hui. Parce qu'il t'aime d'un amour incroyable, éternel. Et il te l'a prouvé en envoyant son Fils, Jésus-Christ. Lui-même, Dieu, venant, s'incarnant en homme, vivant une vie parfaite, nous montrant comment être le modèle parfait. Mais Jésus n'a pas juste vécu ici, non, il a souffert pour enlever notre souffrance. Il est mort pour nous donner sa vie. Il est ressuscité pour qu'on soit avec lui dans l'éternité. Et c'est exactement ça que Dieu veut te dire à toi aujourd'hui. T'essayes par tous tes moyens d'être la meilleure personne, mais t'as besoin d'avoir avant tout de venir devant Dieu en disant « Je suis repentant, je suis faible, je ne suis pas assez, j'ai besoin de toi. » C'est fou parce qu'on voit le fils, quand il part de la maison, il dit à son père d'une manière arrogante « Donne-moi, donne-moi tout ce que je dois avoir. » Mais quand il revient en le suppliant en disant « Maintenant, Père, fais de moi. » C'est exactement ce qu'on doit avoir comme attitude devant Dieu. Pas arrogante en disant « Je veux par ma propre force faire tout ce que j'ai. » Puis tout ce que Dieu m'a donné, toutes les capacités, toute ma... Non, ce n'est pas avec d'une manière arrogante qu'on veut bâtir nos vies, qu'on veut être les meilleurs papas. Non, on veut être des fils repentants qui venons au pied de Dieu en disant « Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. » Parce que sans une repentance, sans que Dieu déverse son cœur en nous, sans qu'il nous élève, sans qu'il nous justifie, sans qu'il nous redonne une deuxième chance, troisième, millième, sans ça, je ne peux pas devenir à son image. Et c'est impressionnant parce que l'amour de Dieu envers nous est incroyable. Je veux être un bon père, mais je dois d'abord être un bon fils, un enfant de Dieu. Quelle est ta relation avec Dieu, ton père, aujourd'hui? Est-ce qu'en ce moment, si on fait une introspection, est-ce qu'en ce moment, ma relation avec Dieu est une relation de business? Voici ce que je fais, puis voici ce que tu me donnes, voici le contrat. Ou est-ce que c'est une relation de famille? Est-ce que tu comprends que tu es un enfant de Dieu? Si tu es chrétien, si tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, la Bible nous dit que nous sommes enfants de Dieu, nous recevons un esprit, le Saint-Esprit, nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Nous sommes un enfant. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, tu es comme ce fils prodigue. Dieu t'a créé, Dieu t'a aimé avant même la fondation du monde. Et il veut que tu reviennes dans sa maison, il veut être avec toi parce qu'il est ton créateur, il veut être ton père et il veut que tu sois son enfant. 1 Jean 3, 1 nous dit « Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. C'est cette assurance-là que nous devons avoir. L'amour que Dieu a pour nous est incroyable. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Dieu nous a aimés et il a tout donné. C'est lui qui a fait le premier pas. Il attend juste que nous revenions à la maison. Nous avons accès à son amour, nous avons accès à son pardon. Tout ce qu'on voit dans ce fils prodigue, tout ce qu'on voit de ce qu'il a fait de mal et quand il rentre à la maison, c'est exactement ce que nous avons besoin de comprendre. Nous sommes ce fils et chaque jour, nous devons revenir plus proche du cœur du Père. Nous ne sommes pas parfaits et nous, même si on essaye de marcher dans un chemin de perfectionnement, nous ne serons jamais parfaits. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de la présence de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin d'être tellement proche de lui que son cœur est déversé dans le nôtre. On a besoin qu'il nous enlève notre fardeau. Et je termine avec cette histoire. Alors que mon fils a 5 ans et puis je pense à quelques temps, on a commencé à parler et puis il pose beaucoup de questions. Il est curieux comme son père. Et alors qu'il me pose, il me, il me pose des questions sur la famille, et puis on lit une encyclopédie, et puis on regarde les arbres généalogiques, et puis je lui explique, tu sais, papa, moi, ben, papy, c'est mon papa. Et là, dans la tête d'un petit garçon de 5 ans, il comprenait pas. Mon papa a un papa. Je pense qu'il pensait que j'étais le patriarche. En dehors de mon papa, il n'y a aucun autre papa. Non, je lui explique, Lenny, toi, tu es mon fils, je suis ton papa, et moi, je suis le fils de quelqu'un. Et là, je vous le dis, ça a switché dans sa tête. Je pense qu'il a vu que, oh, mon papa n'est pas tout puissant. Il a aussi, lui, un papa. Et puis la question qu'il m'a posée, c'est, ah oui, et puis tu dois lui obéir? Je suis comme, oui, d'une certaine manière, même si j'ai 33 ans et qu'il habite à 6000 km de chez moi. OK, puis est-ce qu'il peut te mettre en conséquence? Non, ça, il ne peut pas. Mais oui, il peut me confronter, mais pas me mettre en conséquence. Et alors qu'il me posait ces questions, c'est incroyable parce qu'il comprenait que même si j'étais un père et une autorité, et un protecteur, et celui qui le validait, celui qui lui montrait le bon chemin vers Jésus, puis à prier ensemble. Mais moi aussi, j'avais besoin d'un papa. Et non seulement spirituel, parce que je lui dis souvent, tu sais, Lenny, moi j'ai besoin de prier Dieu. Parce que si je ne prie pas Dieu, si je ne suis pas proche de lui, je ne serai pas comme je suis aujourd'hui, à pouvoir me maîtriser, à pouvoir... Non, parce que dans ma chair, il y a plein de choses. Mon cœur est sale, comme n'importe qui d'entre nous. Et même si on essaie par tous les moyens d'être des bonnes personnes, notre cœur reste sale. Il faut que mon Père spirituel, Dieu, par son esprit, en comprenant le sacrifice de Jésus, que je puisse être lavé, pardonné, justifié. Je n'ai plus besoin d'essayer par mes propres forces d'y arriver. Non, Jésus a tout payé. Il a pris toutes ses forces. Il est parti à la croix. Il est mort pour que je puisse être sauvé. Je suis lavé de mes péchés. Et c'est pour ça que quand je lui dis ça à Lenny, je lui dis, c'est pour ça que moi, même si oui, je suis ton papa, j'ai besoin, moi, d'avoir deux papas. Mon Père, Dieu spirituel, également mon Père. Et dans quelques années, je pense que je vais lui expliquer. Ou alors il va peut-être regarder le message avec moi dimanche. Mais je lui disais, tu dois comprendre que moi, alors que j'étais adolescent, j'ai vécu vraiment des tensions avec mon Père. C'était vraiment difficile entre nous. On passait de père et fils à ennemi. J'en voulais, il y avait... Mon cœur était tellement mauvais que ça faisait des frictions, et puis pendant des années. Et puis, alors que ça, c'était dans mon adolescence, à la fin de mon adolescence, j'ai rencontré Jésus-Christ. J'ai été complètement transformé. Je ne suis pas devenu parfait, mais je suis devenu une nouvelle créature. Je suis vraiment devenu quelqu'un de nouveau. Et alors que tout semblait aller mieux, puis même dans mes relations avec mes parents, puis j'ai rencontré Sophie, on s'est mariés, on est venu ici au Québec, ma vie fonctionnait d'une manière incroyable à partir du moment où j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Mais... Alors que quelques années après être arrivé au Québec, Lenny est arrivé dans ma vie. Puis j'étais avec lui en train de me balader. Il était dans la poussette, dans le carrosse. Puis on faisait une balade. Et puis le lendemain, je me souviens que c'était dimanche et que je devais prêcher ma première fête des pères. Et j'avais choisi de prendre le verset « Honore ton père et ta mère ». Et alors que j'étais en train de me préparer, je priais. Puis je priais, puis j'étais avec mon fils, puis je me disais, j'espère que tu vas m'honorer, mon fils. Puis je priais pour mon fils, je priais. Et puis à un moment donné, le Saint-Esprit est venu en moi, il m'a dit, Ben, il faut que tu honores ton père. Je suis comme, mais oui, je l'aime, tout est beau. Il me dit, non, tu n'as jamais demandé pardon à ton père pour l'adolescence que tu as vécue. Et puis, au fond de moi, je savais que mon père m'avait déjà pardonné. Mais dans mon cœur, je ressentais vraiment fort que Dieu disait, tu ne pourras pas aller prêcher, honore ton père et ta mère si toi, tu n'honores pas ton père aujourd'hui. Puis là, ça m'a pris tout mon cash. J'étais là, assis sur le banc. Je me suis arrêté parce que c'était vraiment deep là. Puis je me suis dit, OK, je vais envoyer un texto à mon père pour m'excuser. Puis ça m'a pris, je pense que c'était le texto le plus long que j'ai... Non, pas en longueur, mais en temps. J'ai tellement eu de la difficulté à exprimer mes émotions. Et puis finalement, j'ai dit, papa, je voudrais juste te demander pardon pour l'adolescent que j'ai été vraiment irrespectueux. Puis je lui ai envoyé ce texto-là. Et je vous le dis, ce jour-là, j'ai réellement ressenti que Dieu me disait, là, tu viens d'approcher encore plus près de mon cœur, parce que tu as compris le côté où tu devais honorer ton père. Et même si c'est difficile entre vous, il faut que toi, tu fasses le premier pas. Et parce que si tu veux que ton fils, un jour, soit en bonne relation avec toi, il faut que toi, tu sois en bonne relation avec ton père. Et alors que le dimanche, j'arrive, puis je prêche à des jeunes... Je me souviens que la salle était là et puis je prêche, honore ton père et ta mère et puis j'explique ce que je viens de vivre. J'explique que alors que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit est venu et puis il m'a dit, il va falloir que tu demandes pardon à ton père. J'explique ça à des ados et je ne savais pas, je l'ai su que des années après quand je dînais avec un jeune adulte qui était dans cette salle, il me dit, Ben, c'est fou parce que je me souviens de ce dimanche-là. J'étais dans les rangs, j'écoutais. Et c'est le dimanche où Dieu m'a parlé et puis il m'a dit, au travers de ton témoignage, il faut toi que tu pardonnes ton père qui t'a abandonné. C'est un jeune garçon qui avait grandi sans père, sans repère. Puis il avait une haine, il avait une colère envers son père, abandonné, parti loin. Il avait un vide. Mais au travers du pardon que j'ai demandé à mon père et au travers de la parole de Dieu, parce que quand on obéit à Dieu, il y a quelque chose qui est relâché. Non seulement moi, j'étais relâché de ce fardeau-là, mais la parole de Dieu a été donnée. Et les autres qui étaient là ont entendu ça et puis ils se sont dit, il va falloir que moi aussi je commence à demander pardon. Il va falloir que moi aussi je pardonne. Et ce jeune homme-là a pardonné son père qui l'avait abandonné. Et puis il dit, j'ai été vraiment nettoyé, je ne lui en veux plus. J'ai été libéré de ça. C'est fort parce que si je voulais être un bon père, il fallait que d'abord que je comprenne que je devais être un bon fils. Il fallait que je fasse ce que Dieu me demandait de faire. Et en ce moment, peut-être vous, dans votre vie, c'est difficile. Et puis tu te dis, même mon père, peut-être, est même plus sur cette terre. Et je lui en veux encore. Dieu te dit, il va falloir que tu lui pardonnes. Mais c'est impossible pour toi. Dieu va te donner la force. Dieu a des miracles en réserve pour toi, pour ta vie. Et il veut que tu sois à son image. À l'image de ce père, oui, mais à l'image de ce fils repentant qui revient vers lui. Et alors que je termine ce message, j'aimerais vraiment vous inviter juste à tourner vos cœurs vers Dieu. On veut être, puis je parle au père aujourd'hui, mais je peux parler à toutes les personnes qui m'écoutent. Plus jeunes, plus âgés, hommes, femmes, enfants. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre, c'est que Dieu nous aime tellement qu'il veut être proche de nous. Mais il a déjà fait le premier pas. Il a envoyé son fils, il est venu lui-même sur cette terre pour être proche de nous. Et aujourd'hui, il nous appelle, il nous attend. Il est à la porte, il nous regarde de loin en disant, « Je veux juste être proche de toi. Veux-tu être proche de Dieu ?» Si c'est ton désir aujourd'hui, juste tourne ton cœur vers Dieu en disant, « Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. » Et chaque jour, moi-même, même si je suis pasteur, même si j'enseigne la théologie, chaque jour, je dois revenir vers Dieu en disant, « Seigneur, pardonne-moi. » Parce que je ne suis pas parfait et j'ai chaque jour besoin de revenir plus proche de ton cœur. Et alors que je préparais ce message, j'avais vraiment une parole pour quelqu'un. Et je sais que chaque situation est difficile, mais alors qu'on parle du fils prodigue qui est parti de la maison, il y a une parole pour quelqu'un que c'est toi en ce moment, tu es le père et c'est toi le père prodigue, tu es parti de la maison. Tu as abandonné, tu es parti. Et Dieu te dit, il faut que tu reviennes à la maison. Il faut que tu reviennes dans la vie de tes enfants. Il faut que tu reviennes, tu demandes pardon. Il faut que tu reviennes et que tu respectes ce que Dieu veut pour toi. Il veut une unité, il veut une réconciliation. Est-ce que ça va être facile? Non. Mais il faut que tu reviennes, il faut que tu regardes en toi-même. Comme ce fils, je me lèverai, j'irai. Il faut que tu te lèves. Dieu va te donner la force. Dieu vient de te donner un signe clair. Il faut que tu te lèves et que tu retournes chez toi. Il faut que tu reviennes dans la vie de tes enfants parce que tes enfants ont besoin de toi. Et tu as besoin d'eux. Et peut-être certaines personnes m'écoutent là et puis me disent, j'aimerais tellement pouvoir être proche de Dieu, comme tu le décris. C'est exactement ce que Dieu veut pour vous. Alors, est-ce qu'on pourrait ensemble fermer les yeux? Et puis, j'aimerais prier. Seigneur, merci parce que ton amour est grand, ton amour est puissant. Ton amour, Seigneur Jésus, est extravagant. Seigneur, tu es venu, Seigneur Jésus, tu as quitté ton trône pour venir ici, sur cette terre, il y a 2000 ans. Venir servir l'humanité, venir être un modèle en tout. Seigneur, tu nous as montré comment nous devions vivre. Seigneur, tu as souffert et tu es mort pour que nous puissions être sauvés. Seigneur, tu es ressuscité 3 jours après. Merci, parce que le même esprit qui a ressuscité Christ vit en nous. Et nous sommes appelés enfants de Dieu. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui en ce moment nous écoutent et qui se disent, je ne suis pas encore enfant de Dieu. Je ne suis pas encore revenu à la maison. Seigneur, je te prie pour que les fils et les filles prodigues, je te prie pour les pères et les mères, je te prie pour chaque personne qui entend, Seigneur, ce message, puisse recevoir ton esprit en ce moment, dire, je viens et je me repens. Si c'est votre prière, priez-le avec moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je ne suis pas parfait et j'ai besoin de toi. Et aujourd'hui, je comprends que je dois m'approcher de toi. Je dois revenir à la maison spirituelle. Pardonne mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur Jésus, pour tout le mal que j'ai fait. Pardonne-moi, Seigneur Jésus, pour la vie que j'ai vécue. Mais Seigneur, maintenant, je sais que tu me pardonnes parce qu'à la croix, tu as tout accompli. Jésus-Christ a pris mon fardeau à la croix. Il m'a donné sa grâce. Il m'a justifié. Toutes choses anciennes sont passées. Maintenant, tout devient nouveau. Seigneur, Je te prie pour toutes ces personnes, Seigneur, qu'ils reconnaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Qu'ils puissent venir et se mettre, Seigneur, sous la croix, sous la bannière, Seigneur Jésus, de la croix. Parce que c'est ta croix, Seigneur Jésus, qui nous a donné le pouvoir d'être réconciliés avec toi. Père, je te prie, Seigneur, pour chaque papa qui nous écoute en ce moment. Seigneur, dans les difficultés de vie qu'on vit, Seigneur, dans une société avec le travail, avec les heures, Seigneur, donne-leur, Seigneur, une faveur, qu'ils puissent, Seigneur, devenir des pères à ton image. Seigneur, merci parce que tu nous donnes l'opportunité, le privilège de pouvoir savoir, de pouvoir apprendre de toi. Merci pour ta parole, merci pour la Bible. Seigneur, aide-nous à l'ouvrir chaque jour, à comprendre ce que tu veux nous dire. Merci, Seigneur, parce que ton esprit se révèle à nous pour que nous devenions encore plus proches de toi. Seigneur, nous proclamons ta gloire. Seigneur, merci parce que nous allons chanter dans quelques instants. Maintenant, je vois. Je vois l'amour que tu as pour nous, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Seigneur, on veut proclamer que ta croix est dans nos vies, que tu es le centre de nos familles. Seigneur, et merci pour tous les papas, Seigneur. On veut célébrer, Seigneur. Donne-leur la force, donne-leur la patience, donne-leur la persévérance, donne-leur ton amour, donne-leur ton humilité. Seigneur, donne-leur ton pardon, Seigneur, et que nous puissions briller dans nos familles comme tu nous appelles à briller. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et tout le monde dit Amen. Chantons ensemble.